Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous voulons vraiment bénir le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Que vraiment vous soyez consolés, rétablis par notre Seigneur Jésus-Christ. Que vraiment nous puissions tous ensemble faire monter des cris de joie vers lui. Aussi toute notre adoration, parce que c'est lui, Dieu, qui prend soin de nous de manière exceptionnelle. Je voudrais vous demander de faire un petit effort, de vous lever pour la prière. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grande bonté envers nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as fait briller ton soleil, Seigneur Dieu. En nous, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles encore toutes tes richesses pour chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre heureux et éternel. Merci, Seigneur, de nous avoir unis en toi à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes rassemblés dans ces lieux, dans cette maison, Seigneur, tous ensemble pour faire monter vers toi nos louanges. Alors vraiment, Seigneur, que tu puisses agréer, Seigneur, ce moment que nous te dédions, Seigneur. Il est pour toi, Seigneur. Tu en es l'objet. C'est toi, Seigneur, qui nous a consolés. C'est toi, Seigneur, qui nous a rétablis. C'est toi qui nous a guéris. C'est toi qui nous a corrigés lorsque nous avons besoin d'être remis sur la bonne voie. Et nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette Église, éternel Dieu, que tu puisses encore la porter encore dans ton cœur, éternel Dieu, et que tu puisses aussi, par dans ta grande bonté, intervenir dans la vie de tous ceux, Seigneur, qui souffrent, éternel Dieu, et qui crient vers toi. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas penser à nous, Seigneur, mais plutôt te donner toute la gloire qui t'est due. Parce qu'au-delà de nos souffrances, au-delà de l'épreuve, éternel Dieu, tu es le Dieu de splendeur, de grandeur, éternel Dieu. Et nous voyons combien notre souffrance est infime comparée à la joie, Seigneur, que tu as mis en nous, comparée aux bénédictions que nous avons eues, Seigneur, et que nous avons encore. Alors nous voulons regarder qu'à cela, éternel Dieu, et te donner toute la place. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bien d'être debout. Vous allez rester debout, ne vous asseyez pas. Hein, les enfants, debout. C'est vraiment une joie, en fait, de pouvoir louer le Seigneur. C'est bien de se tenir debout pour chanter. Hein? La voix sort mieux, hein? Comme ça. Et puis, j'ai toujours cette image du peuple de Dieu qui se lève pour lui, qui part au combat. Je me rappelle toujours de ce mur de Jéricho où ils chantaient, ils tournaient et finalement, ils ont fait tomber toute cette barrière. Hein? Le peuple de Dieu debout. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous tenir debout, mais si vous avez des problèmes de santé, restez assis. Mais c'est bien d'être debout. Hein? Il y a des choses qui sont debout en esprit aussi. C'est bien également. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous unir en toi. Nous sommes unis. Est-ce que nous sommes unis les uns aux autres? Amen. Il faut que le peuple de Dieu soit uni. Uni autour de la cause de Jésus-Christ. Nous formons une belle famille spirituelle, avec beaucoup de richesses. Et nous sommes tellement contents. Moi, je suis content de voir en fait une église debout pour le Seigneur et qui s'entendent aussi. Hein? Et c'est magnifique. Les moments fraternels sont des moments importants. Et quand on peut se lever et puis chanter tous ensemble, s'unir, eh ben, c'est magnifique. Et ça, c'est la volonté de Dieu, hein, vous savez. Nous venons, Seigneur, en ton nom, rassemblés simplement pour t'adorer, Seigneur. Alors continue dans l'harmonie, dans l'unité, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, Seigneur. Chantons ensemble ce chant. De régner en nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre pleinement, Seigneur, cette unité, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses être là, Seigneur, dans nos cœurs, éternel Dieu. Alors, Seigneur, règne en nous, Seigneur. Règne en moi, Seigneur.
Puissant, règne en moi.
Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu vois là où nous avons du mal, Seigneur, à te laisser prendre la place, éternel Dieu, les choses que nous voulons garder pour nous, Seigneur, et que tu nous demandes de relâcher, éternel Dieu. Nous voulons vraiment tous les abandonner, Seigneur, et te laisser le plein contrôle de notre vie, éternel Dieu. Alors manifeste-toi en nous. Règne en nous, Seigneur. Règne en nous, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. J'appelle les frères pour le service de la table.
Baby. vivant à lui convient le tout. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Demeurer et briller par ta lumière.
désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller.
Tous ensemble pouvoir dire au Seigneur combien nous voulons le louer, combien nous voulons l'adorer.
Je veux te Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te au Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te
te louer et t'adorer.
à jamais, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur.
Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce une fois de plus de pouvoir voir notre culte de dimanche. C'est une grâce de Dieu, comme j'aime à le dire. Depuis hier, nous avons entamé notre séminaire sur la famille et nous avons été richement bénis. Richement bénis. Nous qui avons pu être là hier. Tout à l'heure dans les annonces, Eric vous dira comment profiter aussi de l'enseignement d'hier. Nous sommes au bénéfice du ministère d'un frère, Jean-Claude Girondin, un pasteur, un serviteur de Dieu, mais aussi un spécialiste dans le domaine, on va dire, séculier, parce qu'il est docteur en sociologie. Les questions de la famille, c'est des questions que Dieu a mis sur son cœur, dans son ministère. Et hier, il nous a témoigné comment il est engagé dans ce ministère auprès des familles. Et nous voulons encore ce matin... vraiment que l'Esprit de Dieu parle au travers de lui. Si Dieu a souhaité que nous soyons là hier et aujourd'hui, c'est qu'il a quelque chose à te dire, mon frère. Il a quelque chose à te dire, ma sœur. Il a quelque chose pour ta famille. Il a quelque chose pour toi. Alors sois attentif ce matin. Je laisse toute la place à Jean-Claude.
Bonjour frères et sœurs. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin. Je suis avec mon épouse, Nadia. Donc c'est un privilège. Alors, ce que je n'aime pas, c'est arriver en retard. Et je me suis perdu, je ne sais pas comment. Donc, mon frère commençait à s'inquiéter. Mais je suis... Oui, content de voir ce qu'on pourrait partager ce matin. Ce que je pense partager avec vous, c'est la question de l'intergénérationnalité. C'est être dans l'Église, mais on n'est pas, il n'y a pas qu'une seule. Il y a différentes populations, d'abord sur le plan culturel, mais aussi on peut voir qu'il y a des personnes plus âgées, ensuite il y a des personnes qui ont dit des. Qui sont juste au milieu, et puis après, bien sûr, il y a les jeunes. Et en fonction des pays, en fonction des cultures, on vit ces choses plus ou moins bien. Alors hier, qu'avons-nous fait? Alors si vous n'étiez pas là hier, vous avez perdu beaucoup. Je ne me cache pas de vous le dire, vous avez perdu beaucoup. Alors peut-être que vous aviez votre raison, je ne suis pas là pour entrer dans les raisons qui vous ont amené à ne pas être là. Mais si c'était par manque d'intérêt, vous avez perdu beaucoup, puisque dans ce que j'ai apporté, c'était quand même assez encourageant pour les uns et les autres. Donc on a, dans un premier temps, on a fait un travail, enfin on s'est présenté, et on s'est rendu compte que certaines personnes venaient de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, du Congo-Brazzaville, etc. Et puis, certaines personnes venaient de familles nombreuses, 10 enfants, 9 enfants, 7 enfants. Donc, c'était assez intéressant de voir aussi des personnes qui ont voyagé. Par exemple, une sœur nous a dit, je viens d'Haïti, mais avant, j'étais dans tel pays, ensuite, je suis arrivé en France. Donc, tout ça permet d'apprendre à mieux se connaître, dans une église. Et cela nous évite aussi souvent de porter des jugements hâtifs, parce que nous apprenons à connaître nos frères et sœurs. Ensuite, nous avons fait un autre travail qui consistait à savoir ce que nous aimons dans notre culture. Et on s'est mis en petits groupes, et là, on a abordé Alors moi, je n'étais pas dans les petits groupes, mais je suppose que certaines personnes, s'ils viennent de la Guadeloupe, on dit qu'ils aiment le colombo, par exemple. C'est un plat important. Alors je ne sais pas pour les autres personnes, mais on a partagé à la fois tout ce qui relève des pratiques alimentaires, l'art culinaire, mais également des choses qui relèvent aussi sur le plan artistique, esthétique, la musique, des choses de ce genre. Donc, et puis on a fait tout un travail qui consistait à voir, à dire en fait que la Bible nous montre des familles qui ne sont pas toujours forcément des modèles à travers leur comportement, Abraham, Jacob, etc., mais qu'il y avait quand même ce qu'on repérait dans la Bible en ce qui concerne la famille. Eh bien, c'est qu'il y a un père, c'est qu'il y a une mère, un homme, une femme, un père, une mère, il y a des enfants. Et puis, dans ces familles, chacun a son rôle, mais en même temps, ce qui est intéressant pour nous, de dire qu'il n'y a pas qu'un modèle de famille. Généralement, quand on parle dans les milieux chrétiens de modèle familial, vous ne vous rendez pas compte parce que quelquefois on n'est pas très attentif à cela, mais le modèle qu'on a, c'est un modèle américain. Ensuite, c'est un modèle aussi européen parce que la plupart des livres qu'on lit sur la famille viennent des États-Unis. Donc cette famille modèle, idéale, etc. C'est traduit en français. Et les personnes qui ont traduit en français n'ont pas pensé aux personnes qui viennent d'Afrique. Et puis l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc vous voyez, là, c'est beaucoup plus grand que la France. Ensuite, ces gens-là n'ont pas pensé aux Guadeloupéens ni aux Martiniquais, puisque nous sommes des Français et on pense quelquefois que nous sommes assimilés. Bref, donc tout ça montre quand même que quand on commence à parler de la famille, il faut faire attention à la manière de parler de la famille. Et la Bible n'impose pas un modèle familial. Il donne des repères, il donne un idéal en ce qui concerne donc la famille. Mais on ne peut pas imposer, si vous voulez, un modèle à un autre modèle au risque de créer un certain nombre de difficultés. Après, ce que nous avons pu constater, c'est que nous pouvons apprendre les uns des autres. Il y a des familles, par exemple, qui mettent beaucoup l'accent sur l'individu. C'est le modèle qu'on a en Occident, c'est-à-dire en Europe, qu'on a aussi en Amérique du Nord, où l'individu est au centre, où l'enfant est éduqué avec plus d'autonomie. Et puis, il y a un autre modèle, qui est un modèle, qu'on dit, qui est plus traditionnel. C'est le modèle qu'on trouve en Afrique, qu'on peut retrouver aussi aux Antilles, où c'est la communauté qui est au centre. Dans ce modèle-là, l'enfant n'est pas tellement invité à l'autonomie. Le plus souvent, quand il parle ou quand il pose des questions, c'est tais-toi. Vous voyez, tout ça montre un petit peu les difficultés qu'on a en ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc, on peut apprendre des familles européennes un certain nombre de choses, comme les familles européennes peuvent aussi apprendre de la famille africaine en ce qui concerne le sens de la communauté et aussi l'éducation des enfants. Donc il n'y a pas un modèle. Tous les modèles ont ce qu'on peut appeler leur unique, donc là où ils brillent, là où les choses sont vraiment, on peut dire, ça c'est bien, ça c'est magnifique. Et puis, tous les modèles sont défaillants, et cela à cause du péché. Donc, voilà, je pense globalement ce que nous avons dit. Donc moi je vous encourage à... Et puis on a beaucoup insisté, oui ça c'est un point très important, les chrétiens de façon générale, surtout ceux qui viennent des Antilles, et moi j'ai été élevé dans une église où le plus souvent c'est le rejet de la culture. Or la culture, ça fait partie, on pourrait dire, de notre humanité. Quand Dieu dit à Adam et à Ève de cultiver, de garder le jardin, ça c'est une invitation à la culture. Si là finalement j'ai rasé ma barbe, etc., je l'ai nettoyé un peu, là je l'ai cultivé. Avant j'avais beaucoup de barbe, eh bien c'était nature comme on dit, si vous voulez. Quand vous améliorez quelque chose, ça fait partie de la culture. Donc en fait, Dieu dit cultiver et garder le jardin, ça veut dire développer son environnement. Donc la culture, c'est tout ce que nous faisons pour développer notre environnement. Alors ça peut prendre une forme sociale par la manière d'habiter le monde. Cela peut prendre aussi une forme artistique. La musique, ça fait partie de la culture esthétique. Ce qui s'est passé dans le temps, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, souvent ceux qui nous ont apporté l'évangile, mais avec leur culture, et souvent nous invitons aussi à rejeter notre culture. Or, l'évangile ne demande pas ce genre de choses. Alors, il y a des choses, si vous lisez, il y a un livre qui s'appelle la déclaration de Lausanne 74 que nous avons projeté hier. Il est dit que nous sommes appelés à développer notre environnement. Enfin, c'est l'idée que dans la culture, il y a de belles choses. Toute culture est marquée par la bonté et la beauté. Et de l'autre côté, eh bien, il y a des traces du péché dans la culture et même des influences démoniaques. Donc, et l'Évangile, à cause de cela, nous sommes invités à avoir le discernement spirituel. Ça veut dire quoi? Par rapport à chaque élément de notre culture, eh bien, nous devons dire, est-ce que là, il y a quelque chose qui est contraire à ma foi? Si ce n'est pas contre ma foi chrétienne, pourquoi je ne vais pas, finalement, je ne vais pas accueillir, si vous voulez, accepter cet aspect de ma culture? Or, généralement, ce qu'on fait, c'est l'expression, on jette le bébé avec l'eau du bain, alors que la culture, vous ne pouvez pas vivre sans culture. Donc, tous, nous vivons avec la culture, et nous avons besoin de ça pour communiquer. Donc, il y a ce qu'on appelle l'universalité psychique, c'est-à-dire tous les humains étant créés à l'image de Dieu. Donc, il y a ce qu'on peut appeler un noyau universel, c'est-à-dire nous pouvons comprendre jusqu'à un certain point un Européen, comme un Européen peut comprendre un Africain jusqu'à un certain point. Après, il y a ce qu'on appelle le codage culturel, c'est-à-dire quelque chose de ma culture, à cause de mon histoire, me permet d'avoir un autre regard sur la chose. Par exemple, un autre regard sur le rôle de la femme. Je prends un exemple. Dans la culture guadeloupéenne, on parle beaucoup de la femme potomitan. On parle beaucoup de la femme debout, femme vaillante, si vous voulez. Mais ça vient de notre histoire, parce que pendant la période esclavagiste, le maître, finalement, qu'on appelait le nègre étalon, eh bien, c'est quelqu'un qui n'avait pas, qui en avait pris la place, si vous voulez. Donc, c'était la femme qui était au centre pour l'éducation des enfants, pour ceci, pour cela. Donc, là, à cause de cela, la femme a joué un rôle très important dans la famille, et qu'on dit que c'est une famille qui est matrifocale, c'est-à-dire la mère est au centre. Et on peut dire, pourquoi aujourd'hui une personne m'a posé la question, eh bien, on entend toujours ces choses, on a toujours des influences. Eh bien, c'est la transmission, c'est qu'on a transmis ces choses, voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps pour récapituler ce qu'on a vu hier. Donc, je vous invite à lire quelques textes bibliques, et ensuite, on va parler d'intergénérationnalité. Le premier texte que je vous invite à lire, c'est le psaume 78, des versets 1 à 8. Psaume 78, versets 1 à 8. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Verset 3. Ce que nous avons entendu et que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Verset 5. Pour que la connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Quand vous lisez ce texte, une des premières choses que vous voyez, c'est qu'il est beaucoup question de génération. Et il nous montre que chaque génération a une responsabilité. Quelle est la responsabilité? Pardon? Vous dormez? Qui est le fait de transmettre. Donc, chaque génération doit transmettre. Et pourquoi ça? Pour que chaque génération puisse connaître l'Éternel et ne se détourne pas de Dieu. On regarde Jérémie, chapitre 32. Une personne peut même lire, hein, comme ça, vous n'allez pas dormir. Jérémie, chapitre 32. Est-ce qu'une personne, verset 19? À moi. Jérémie 32. Verset 19. Une personne peut nous lire. Non, je crois que je me suis trompé. Mais c'est le verset qui dit « Nos pères ont mangé des raisins et on le retrouvera. » C'est peut-être dans ce texte, mais rappelez-vous qu'il y a ce passage. Juges chapitre 2. Juges chapitre 2. Juges chapitre 2. On peut lire à partir du verset, je lis à partir du verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres décédés, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Donc, une génération qui s'est élevée sans connaître Dieu. Et puis, le dernier passage que je vous invite à lire, c'est Malachie, le chapitre Malachie. Chapitre 3, versets 23 et 24. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Alors peut-être pour vous, c'est le chapitre 4, je pense verset 6 pour vous, si ma mémoire est bonne. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous avez trouvé? D'accord. Pour l'autre, peut-être qu'on le trouvera après, c'est pas trop grave. Donc, ce matin, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la notion d'intergénérationnalité. C'est-à-dire, nous avons vu que le texte biblique nous a beaucoup parlé de génération, mais vous remarquez que là, je dis intergénération. C'est-à-dire, je parle du lien, de la relation entre les générations. Et cela existe à différents niveaux. Si c'est votre téléphone, je suis sûr que ce n'est pas le Seigneur qui téléphone là, mais il ne m'aurait pas troublé quand même. Alors, ça c'est très important, c'est les générations peuvent être ensemble, mais juste à poser. Chacun fait ses affaires, comme on dit, sans qu'il y ait de lien, sans qu'il y ait de relation ensemble. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'églises où il n'y a jamais un culte, où on voit que tout le monde participe, sauf peut-être quand, pour le réveillon, qu'on organise quelque chose dans les églises, où on fait cet effort. Pourtant, la Bible nous dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et ça va beaucoup plus loin que le fait de chanter ensemble le dimanche matin. C'est le fait de servir Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ça montre quand même qu'avec la venue du Seigneur, quelque chose a changé dans la manière de célébrer le culte. Dans l'Ancien Testament, le culte était une affaire d'homme. Ce n'était pas une affaire de femme, ni une affaire de jeune, ni d'enfant, si vous voulez. C'est l'homme qui avait la primauté en ce qui concerne le culte. Et avec la venue de Jésus, eh bien, les choses changent. Qu'est-ce que ça veut dire intergénérationnel? Ce mot, qui est un mot peut-être barbare, n'existe pas dans le dictionnaire. Mais pour nous, il exprime l'idée de vivre des moments, des activités, toutes générations confondues, jeunes et vieux, ensemble, dans l'Église du Seigneur. Cela signifie, nous dit un auteur, avoir envie d'aller à la rencontre pour les découvrir ou mieux les connaître, c'est-à-dire aller à la rencontre de frères et sœurs, que des jeunes vont à la rencontre des personnes plus âgées, que des personnes plus âgées vont à la rencontre des jeunes. Pourquoi ? Pour les découvrir ou mieux les connaître. Et donc, quand nous allons voir ces personnes, ils n'ont pas le même âge que nous, ils n'ont pas les mêmes habitudes. Pourtant, ce sont des personnes avec qui nous prions, nous chantons et avec qui nous pouvons exprimer notre foi. Donc, il s'agit de l'Église, une communauté où l'on désire bien sûr glorifier Dieu, mais cela signifie qu'on veut le faire ensemble, toutes les générations. Cela signifie aussi, frères et sœurs, oser, risquer, espérer que les barrières que nous dressons entre nos générations, aussi hautes, sont bien sûr que elles sont hautes, mais nous pouvons les renverser pour vivre les choses autrement. Et bien sûr, quelquefois, ces barrières ne sont pas aussi hautes que nous pouvons les pensées ne sont pas aussi insurmontables. Les personnes âgées ont des préjugés vis-à-vis des jeunes et les jeunes, souvent, ont des préjugés vis-à-vis des personnes âgées. C'est comme si on pouvait dire, eh bien, ils ont fait leur temps, voyez. Et puis, chacun reste dans son coin. Alors qu'ensemble, il y a des richesses communes. Il y a des choses que les personnes âgées peuvent apprendre aux jeunes et des choses que les jeunes peuvent apprendre aux personnes âgées. Un point important, quand on parle de génération, on peut dire génération familiale. Donc dans une même famille, il y a plusieurs générations. Peut-être que dans cette église, il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants après. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les générations au sein de la famille. Et puis, il y a les générations sociales, ce qu'on peut appeler les jeunes, et puis les personnes âgées. Il y a également ce qu'on appelle les générations historiques, par exemple les personnes ayant connu la Seconde Guerre mondiale, celles qui ont vécu mai 68, et si vous êtes en Guadeloupe, il y a des personnes qui ont vécu mai 67. Il y a toujours des choses, si vous voulez, qui permettent de différencier les générations historiques. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les générations statutaires, les parents, les grands-parents. Et puis, il y a les générations professionnelles, qui sont des personnes qui, dans un cadre professionnel, ont vécu un apprentissage initial et une expérience professionnelle commune. Donc, voyez, comme cela, il y a plusieurs types de générations. Le point commun, quand on parle de liens intergénérationnels, c'est qu'il y a contact entre les personnes d'âge différent. Je vais lire quelques versets et j'aimerais d'abord souligner, chaque fois je vais souligner un point. Pour faire l'Église ensemble, pour vivre ensemble l'Église, toutes les générations confondues, un des versets pour moi qui que j'aime, c'est Malachie qui dit que je vais envoyer le prophète Élie et il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ça montre qu'à l'époque aussi, il y avait des tensions. Et souvent, dans des familles, souvent la tension est entre le père et le fils. Et dans les églises aussi, on peut dire, pour faire les choses ensemble, une des premières choses, c'est la réconciliation. On ne le dit pas, mais par exemple, moi je viens d'une église où des fois je discute avec des jeunes. Et je me rends compte que les jeunes ont été blessés. blessés par le comportement de leurs parents, blessés par le comportement de leur père, et puis quelquefois, cela les pousse à s'éloigner du Seigneur. Vous savez, tous les parents connaissent les versets qui disent « Enfants, obéissez à » mais très peu connaissent « Père, n'irritez pas » de peur qu'ils ne se découragent. Et c'est écrit dans la Bible. « Enfants, obéissez à vos parents afin que tu vives longtemps. Mes pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se... » Je suis un père. Et il y a des pères ici. Et peut-être que pour nous, pères qui ont un certain âge, nous devons reconnaître que souvent, nous avons été l'objet du découragement de nos enfants en étant très légalistes, en étant très sévères, ne leur permettant pas de s'exprimer. Vous suivez ce que je veux dire? Et quelquefois, eh bien, nous ne nous rendons pas compte, mais ces enfants, ils ne sont pas fâchés avec Dieu, mais ils sont fâchés avec nous. Et puisque nous ne sommes pas réconciliés avec eux, ils ne trouvent pas le chemin du Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très important que nous avons besoin de comprendre. Et dans l'Église aussi, là, je parle de quelque chose de familial, mais j'ai rencontré aussi des jeunes de nos églises qui sont en révolte contre les adultes. Parce qu'à un moment de leur vie, ils n'ont pas été compris. Par exemple, telle jeune fille qui s'est trouvée enceinte, mais qui a été rejetée par une communauté. On n'avait pas besoin de la rejeter. Ce dont elle avait besoin, c'était de pardon et d'accompagnement. Il est dit dans ce texte, il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Et on peut dire les mères avec... Leur fille aussi, ça c'est des choses qu'on doit voir. En ce temps-là, on ne dira plus « les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui ont les dents rongées ». C'est 31-29, mais excusez-moi. Jérémie 31-29. Beaucoup de souffrances dans la vie de nos enfants sont liées quelquefois à nos comportements. Et Dieu nous invite à considérer que nous sommes appelés à nous réconcilier avec nos enfants. J'ai un petit frère qui est engagé avec le Seigneur. Bien sûr, je ne suis pas son père, mais je me suis rendu compte qu'un moment de ma vie, ce qui était le frein entre lui pour s'avancer plus vite, pour s'engager avec le Seigneur, c'était moi parce que je ne lui accordais pas le temps dont il avait besoin étant son grand frère. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est la question de la transmission. Chaque génération est appelée à transmettre la foi. Mais comme je le dis, j'ai lu ce verset dans le psaume 78, où on voit que le psalmiste insiste beaucoup sur cette notion de transmission. Comme père, je suis appelé à transmettre la foi, l'évangile à mes enfants, ma foi à mes enfants. Mais dans l'Église, ce n'est pas seulement le père ou la mère qui est appelé à transmettre la foi à ses enfants. C'est toute la communauté qui est engagée à transmettre la foi. Cela veut dire que nous transmettons la foi, bien sûr, dans l'enseignement des enfants, mais nous transmettons aussi la foi par un comportement. Ça veut dire que nous leur transmettons une morale, une éthique. Est-ce que vous pensez, dans une communauté divisée, nous transmettons quelque chose de bien à nos enfants? Non. Quand nous entrons chez nous et que nous parlons de telle foi ou de telle sœur, est-ce que nous sommes en train de transmettre la foi? Non, nous ne transmettons pas la foi. Quand nous parlons mal du pasteur ou des dirigeants chez nous devant nos enfants, est-ce qu'on est en train de transmettre la foi? Non, frères et sœurs. Et tout ça, c'est des choses qui se retournent contre nous, contre l'Évangile à un moment dans la vie. Beaucoup d'enfants ont été choqués par le côté hypocrite de leurs parents, riant à l'église avec des frères et sœurs et leur parlant mal quand ils arrivent chez eux. Vous savez de quoi que je parle. Et nous avons besoin de nous repentir. Donc, on ne transmet pas seulement un savoir. Et c'est souvent ça le problème. On transmet une connaissance, mais à côté, il y a une vie qui est contraire à ce que nous transmettons. Et tout cela fait l'objet de conflits dans les familles. Dieu nous invite à nous réconcilier. Il nous invite aussi à transmettre l'évangile, mais aussi à transmettre un exemple, un comportement pour nos enfants. Dis aux vieillards d'être sobre, respectable, raisonnable et ferme dans la foi véritable, l'amour et la patience. De même, dis aux femmes âgées, on pourrait dire dis aux hommes âgés, de se conduire en personne qui mène une vie sainte. Qu'elles donnent de bons conseils, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, et on peut dire la même chose pour un père. Quand des jeunes choisissent quelquefois de se marier avec des personnes inconverties, nous devons nous réfléchir sur notre part de responsabilité. Est-ce que nous leur avons donné un modèle de couple, de personnes qui vivent bien et qui élèvent leurs enfants? Comprenez ce que je veux dire. Nous devons nous interroger. Et ce texte dit que l'homme âgé, la femme âgée, eh bien, ils ont tous deux des responsabilités à l'égard des jeunes. Et en même temps, ce texte me dit que un jeune doit être suffisamment humble pour aller voir des personnes âgées pour dire dans telle situation, comment aurais-tu agi. Donc, de même dit aux femmes âgées de se conduire en personne qui mène une vie sainte. Donc, c'est des gens qui sont sobres, qui sont respectables, qui sont raisonnables et fermes dans la foi véritable. Et elle doit être capable de donner de bons conseils. Alors, je suis de plus en plus étonné de voir les difficultés que connaissent des couples, que connaissent des couples, et de voir combien facilement les gens divorcent aujourd'hui. Le divorce est devenu une banalité, même dans les églises, même dans les églises. Ce texte nous invite à voir comment ensemble il y a des choses qui peuvent se faire dans la transmission de l'évangile. J'ai cité ce texte qui montre un échec. Il est dit, il y a une génération qui s'est élevée en Israël qui ne connaissait pas le Seigneur. Est-ce que ça peut arriver dans une église? Oui, ça peut arriver. Quand nous négligeons l'évangile, cela arrive. Quand dans ma famille, je néglige un certain nombre de choses importantes. Une des choses les plus tragiques dans mon union d'église, c'est que nous avions un centre qu'on appelait le centre de bananiers. Et c'est un centre qui a été très important, qui a joué un rôle extraordinaire dans la vie des enfants et dans la vie des jeunes. Et des générations sont passées. Et des générations ont été marquées par le travail qui se faisait dans ce centre évangélique. Et puis, à un moment, l'État français nous a demandé de mettre aux normes le centre. Et du coup, les églises n'ont pas investi pour pouvoir transformer ce centre pour permettre aux jeunes de recevoir l'éducation qu'ils recevaient dans ce centre. C'est-à-dire de juillet à août, tous les jeunes de l'église évangélique de la Guadeloupe allaient dans ce centre qu'on appelle le centre de bananiers, par classe d'âge. Et on est arrivé même jusqu'à 25 ans pour aller enseigner des jeunes. Il y avait des missionnaires engagés et beaucoup de jeunes ont reçu un appel. C'est là qu'ils ont compris que s'ils doivent un jour se marier, c'est avec un chrétien. Un jour que peut-être le Seigneur va les appeler pour être missionnaires. Et je peux dire, ça fait près de 30 ans que ce centre n'a pas vu les jeunes comme dans les années 70, dans les années 80. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne se rend pas compte, mais sur le plan spirituel, c'est un dégât, c'est une catastrophe. Parce que quand les jeunes y allaient, ils se stimulaient finalement. Et quand ils retournaient chez eux, eh bien, ils retournaient avec une nouvelle consécration. Cela arrive quand nous ne voulons pas payer le prix, eh bien, nous connaissons un certain nombre d'échecs. Et je vois des parents qui sont prêts à acheter toutes sortes de choses pour leurs enfants. Le dernier téléphone, dernière paire de baskets, si vous voulez. Mais quand il s'agit d'investir pour le royaume de Dieu, il y a toute forme d'hésitation. Je me trompe, frères et sœurs? Et je vois ça souvent. On n'est pas prêt à investir dans la vie de nos enfants sur le plan spirituel comme nous sommes prêts à investir sur le plan professionnel. Et nous sommes étonnés. Je vois, par exemple, très peu de gens dans mon union d'église sont des personnes qui ont fait de grandes études et qui après disent « je m'engage dans le ministère ». Et j'ai vu des parents qui étaient contre ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'engageais quand tu as échoué à devenir pasteur. Alors que l'État français a des écoles spécialisées pour former les Français, si vous voulez. On ne met pas, on fait le mieux. Alors, ça ne veut pas dire parce que quelqu'un a fait de grandes études que la personne a une grande consécration. Comprenez bien ce que je veux dire. Mais ce que je veux souligner, c'est le manque d'intérêt que nous montrons pour l'œuvre de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, il arrive que des jeunes ne connaissent pas le Seigneur. Réconciliation, transmission sont les choses importantes dans l'Église. Et Dieu nous appelle. Ce matin, la question pour vous, comment avez-vous joué votre rôle dans la transmission de la foi? Et quelque part, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à régler avec un enfant ou avec vos enfants? Et ça, ce n'est pas pour vous réconcilier, pour vous culpabiliser. Parce que la Bible, quand nous faisons une démarche, Dieu nous libère, Dieu nous transforme. Troisième point, reconnaître, valoriser les personnes âgées, mais aussi les jeunes dans l'église et les enfants. Je travaille dans une église aujourd'hui comme responsable. Ce qui m'a frappé, la première chose quand j'ai été dans cette église qui m'a touché, c'est la place qui est accordée aux jeunes et aux enfants. L'église où je suis ne lésine pas sur le budget pour les jeunes. N'importe quel adulte confie sa voiture à un jeune quand il s'agit d'aller dans un camp. La voiture, je peux vous dire que la plupart des gens, je ne parle pas de moi, je parle des frères qui sont là et des sœurs qui sont là. Leur bien est consacré à l'église et pour les jeunes. Et quand j'ai été dans cette église pour la première fois il y a quelques années, je me rappelle que la personne qui a dirigé, elle a demandé aux enfants de venir pour leur raconter une histoire. Il y a toujours un moment, le dimanche matin pour les enfants. Je ne parle pas quand on dit aux enfants, c'est le moment de la séparation, si vous voulez. Je ne parle pas de ça. Mais dans le culte, les enfants ont leur place et les jeunes ont leur place. Nous avons un groupe maintenant qui s'appelle Implique Jeunes. Comment les jeunes peuvent s'impliquer. Et ce n'est pas que des jeunes. Il y a des jeunes dans ce groupe, il y a des adultes, il y a des hommes, il y a des femmes, si vous voulez. Parce que ce n'est pas simplement l'église de demain. C'est une partie de l'église d'aujourd'hui, mais demain, ils auront la responsabilité. Et demain, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Dans le conseil de notre église, nous avons des jeunes qui viennent. Nous avons mis en place un système qui permet à des jeunes de participer au conseil. Parce que si vous voulez qu'ils s'engagent demain, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que le conseil, c'est dès aujourd'hui qu'ils doivent venir voir comment ça se passe. Ils sont baptisés, pourquoi ils n'ont pas droit au conseil? Je ne parle pas du conseil pastoral, je parle du conseil de l'Église. Reconnaître et valoriser la place des anciens. Lève-toi devant des cheveux blancs, et sois plein de respect pour un vieillard. Ça n'a rien à voir avec notre monde moderne. Où est-ce qu'on peut entendre encore des choses de ce genre? Lève-toi. Debout. Cède ta place dans le métro à la personne âgée. Aide-la à trouver une rue. Aide-la à porter quelque chose. Et on doit le faire presque avec empressement. Pourquoi? Cela représente une marque de déférence. Lève-toi devant des cheveux blancs et sois plein de respect pour un vieillard. Les ancêtres doivent être plus que respectés. Ils sont la mémoire de la lignée et son point de passage jusqu'à notre présent. À ce titre, ils doivent être honorés. Vous savez ce que ça veut dire le mot honoré? Ça vient d'un mot hébreu qui veut dire qui pèse lourd. Quand la Bible dit honorer vos parents, eh bien ça veut dire que les parents doivent peser lourd dans notre vie. Est-ce que tes parents pèsent lourd dans ta vie? Est-ce que les personnes âgées qui sont là sont des personnes que nous considérons comme importantes et à qui nous manifestons un certain respect? Ils doivent être honorés avec déférence. Il est dit que la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. On voit comment la Bible nous met l'équilibre. Quand on est jeune, il y a des choses qu'on fait. On est vigoureux. On a beaucoup d'énergie. On a beaucoup d'ardeur. Mais ça, c'est une période de la vie. Je connais un monsieur ici qui était, quand il était plus jeune, même pendant longtemps, il avait plein d'énergie. À en revendre, si vous voulez. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pour lui, il n'a plus cette énergie et il doit accepter qu'il n'a plus cette énergie et vivre les choses autrement. La force et la gloire des jeunes. Les adultes n'ont pas, sur le plan physique, à rivaliser avec les jeunes et les jeunes non plus. En même temps, l'adulte, la personne âgée, nous apprend quelque chose, nous apporte quelque chose. Vous savez, quand je vous ai parlé, pour ceux qui étaient là, du fait d'avoir perdu ma marraine, et d'avoir négligé de rendre visite à ma marraine souvent, quand j'ai réfléchi, j'ai perdu beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement un visage que j'ai perdu. J'ai perdu tout un lien. Tout ce qu'elle pouvait m'apprendre concernant mon père, concernant ma grand-mère, je l'ai perdu. Pourquoi? À cause d'une négligence, si vous voulez. Respecte, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Voyez comment la Bible, la parole de Dieu, met de l'équilibre dans les choses. Et quand on dit qu'en Afrique, toute personne est une mère, tout homme est un oncle, il y a quelque chose de là que nous voyons. Ne reprends pas le vieillard avec dureté. Mais encourage-le comme un père, encourage les jeunes gens comme des frères. Vous voyez, ça met du lien, ça met de la différence, du respect, de l'harmonie dans les relations. Quelqu'un dit, c'est le pasteur Richard Gelin, il faut savoir recevoir les uns des autres dans une église, d'une génération à l'autre, jusque dans le culte. C'est un facteur de réconciliation entre générations. C'est un facteur c'est vivre la transmission, pardon. C'est vivre dans la reconnaissance de ce que l'on a reçu, sans être bloqué par ce qu'on a reçu. C'est recevoir et bénéficier ce qu'on a reçu pour construire son propre chemin. Dans la reconnaissance qu'on n'est pas des générations spontanées de chrétiens. J'ai entendu hier une sœur du Cameroun partager, elle a dit qu'elle faisait, ça fait 30 ans, c'est ça, qu'elle est dans cette communauté. Elle n'a peut-être pas construit les murs qui sont là. Vous voyez déjà. Mais vous qui êtes jeunes ici, vous ne pouvez pas imaginez ce que d'autres ont fait pour vous. Pas seulement pour les murs, mais pour que cette église soit une communauté, pour que cette église ait une âme, pour qu'elle résiste aux divisions, à différentes choses. Il y a des gens qui ont prié, qui se sont battus. Et si vous pouvez regarder plus loin que ces personnes aujourd'hui, c'est parce que vous êtes sur leurs épaules. Ils sont sur vos épaules, pardon. Et à cause de cela, vous pouvez avoir une vue plus longue. Saisissez ce que je veux dire. Alors, chaque fois qu'on est en face d'une personne âgée, des gens qui ont été là, on doit être reconnaissant. Merci pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont joué leur rôle dans la transmission. Quand je vais en Guadeloupe, j'ai une chose qui m'attriste, c'est que certaines personnes, et surtout des femmes âgées, ne sont plus là. Mais ces personnes ont joué un rôle très important dans la vie de mon épouse et dans ma vie. Nous n'avions pas de pasteur. On avait un ancien qui jouait bien aussi son rôle. Mais il y avait surtout les femmes âgées qui nous recevaient chez eux, qui priaient pour nous. Et je sais que la prière pour nous a diminué au fur et à mesure que ces personnes décédaient. Je n'entends pas des jeunes me dire « on prie pour toi ». Mais ces personnes âgées priaient continuellement pour nous. Il y a quelques années, on a perdu un frère du nom de Garbin. Et quand il est décédé, je savais que je perdais un intercesseur. C'était important pour lui. On avance. Le respect des jeunes aussi est souligné dans la Bible. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ce jour-là, ils seront prophètes. Alors les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. En effet, déclare le Seigneur, je changerai leur tristesse en gaieté, je les consolerai de leur chagrin, je les remplirai de joie. Que nous dit ce texte? Vos jeunes, vos filles prophétiseront. Dans l'Église, il n'y a pas que la parole de l'adulte, ni de la personne âgée qui compte, mais la parole des jeunes a aussi du sens pour tout le monde. Et le texte dit, eh bien, les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Après cela, oui, j'ai lu, ils seront prophètes, jeunes et vieux, hommes et femmes, ils rêvent, ils voient, ils prédisent, ils sont transportés par l'Esprit de Dieu. Ils sont proches de la source de la vie. Celui qui rêve et regarde vers l'avenir, celui qui se laisse porter par la force de Dieu qui rassemble et qui donne la vie, ne peut rester caché dans son coin. Les prophètes parlent d'une vie dans laquelle tous les êtres humains ont assez pour vivre. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous seront prophètes, ils trouvent un langage commun. Ils rêvent ensemble d'une existence menée dans la dignité et la plénitude. Quelle force de l'avenir, nous dit un serviteur de Dieu. J'avance vers la fin. Connaissez ce Pierre Corneille qui fait dire à Rodrigue dans le Cid, « Je suis jeune, il est vrai. » Mais aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il voulait exprimer le fait que le talent et les dons innés n'ont pas besoin d'attendre des années de maturité pour s'exprimer. Nous sommes dans le conseil de notre église, nous avons fait entrer quelques jeunes, je vous ai dit, et il y a un jeune avec qui Nadia et moi et son épouse, on a passé beaucoup de temps, et pour nous, peut-être que le Seigneur fera les choses autrement, mais nous pensons déjà, c'est lui qui sera le président du conseil. Et c'est important. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut faire ces choses. Et vous rappelez d'une histoire avec dans le livre de Job, et dans quelqu'un qui était plus jeune, vous rappelez de qui? C'est E. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un jeune qui parlait, vous rappelez? Dans l'histoire de Job, il y avait ses vieux amis qui viennent le réconforter, mais c'est le jeune Eliou, le fils de l'un d'entre eux, qui réagit vivement aux propos de ses aînés. Il pensait quoi? Que parce qu'ils étaient plus âgés, ils pouvaient dire des paroles plus sensées à Job. Mais lui, ils lui disent « tais-toi » quelque part. J'aimerais terminer en lisant. Il y a un verset en Zacharie, chapitre 8, versets 4 et 5. Il est dit, « Ainsi parle le Seigneur, Vieux et vieilles s'assiront encore sur les places de Jérusalem. Chacun le bâton à la main. Si grand sera leur âge. Les places de la ville seront pleines d'enfants, garçons et filles qui s'y amuseront. Ça devait être le cas de notre église, n'est-ce pas? Vieux et vieilles s'assiront encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main. J'ai vu une sœur avec son bâton. Si grand sera leur âge, ils ont leur place dans l'église. Les places de la ville seront pleines d'enfants, garçons et filles, qui s'y amuseront. J'ai voyagé avec une dame qui revenait d'une île de la Guadeloupe, c'est une dépendance qui s'appelle Marie Alante. Et cette dame, elle parlait de sa commune, Cap-Ester. Et on voyait que c'est une dame qui aime sa commune. Mais vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit à Marie Galante, dans ma commune, il y a presque plus de jeunes. Il n'y a plus d'enfants. Quand je passe sur la place autrefois, il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient. Maintenant, il n'y en a plus. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à des églises qui n'ont pas de jeunes et qui n'ont pas d'enfants. Et dans son cœur, il y avait une grande tristesse. Frères et sœurs, une église où il n'y a pas de jeunes, où il n'y a pas d'enfants, est une église qui a une part d'agonie, si vous voulez, et dont l'avenir, quelque part, est hypothéqué. Ici, dans le texte de Zacharie, toutes les générations ont une maison qui les accueille. Les enfants ont assez d'espace pour leur jeu. Les femmes comme les hommes y trouvent une place. Et les gens atteignent un âge avancé, car ici, il fait bon vivre. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment de travail, car les jeunes et les adultes qui n'ont pas encore besoin d'une canne pour marcher sont absents. Mais après le travail, eux aussi rejoindront leur place dehors au milieu des maisons. Cette ville est un lieu de paix. L'église doit être un lieu de paix où chacun peut trouver sa place et peut s'épanouir dans le Seigneur. Quelques citations. Un serviteur de Dieu très connu, il dit la chose suivante. Des ambitions spirituelles élevées et une vie médiocre sont le pire héritage qu'on puisse laisser à ses enfants. Un auteur martiniquais dit la chose suivante. Il n'est pas chrétien. Il est décédé depuis longtemps. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Une autre citation, chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Conclusion et aussi conviction. Les évangiles témoignent que Jésus a accueilli des personnes de tout âge et de toutes les conditions, et a été accueilli par elles. Anne et Siméon, Jésus au temple, Jésus et les enfants, Jésus et Nicodème, le jeune homme riche, la femme avec une perte de sang, et puis il y a cette jeune fille aussi. Il y a les guérisons d'enfants à la demande de leurs parents. Jésus a accueilli tout le monde. À la suite du Christ, les communautés chrétiennes ou l'église de Créteil est amenée à faire de même. À l'image aussi que Paul nous donne quand il nous parle du corps de Christ. Toute communauté chrétienne qui se prive d'un de ses membres rate sa vocation. Je suis convaincu et nous sommes convaincus que toutes les générations ont leur importance dans l'église. Elles sont et font l'Église. Elles sont appelées à s'enrichir mutuellement, à vivre de et par la grâce de Dieu, en partageant leur expérience de foi et de vie dans le respect mutuel. Les personnes âgées ou plus âgées peuvent partager les joies, les peines, les limites, mais aussi les richesses. Et je pense que quelquefois cela manque dans nos églises. Ce n'est pas seulement la parole du pasteur qui compte, mais c'est la parole de l'ensemble de la communauté. Et nous pouvons relayer cette parole qui vient du pasteur auprès des jeunes. Donc, je vous encourage à ne pas être des groupes ou une église où les générations sont isolées, sont juxtaposées, on vit l'un à côté de l'autre, mais qu'il y ait inter, c'est-à-dire relation, interaction, un culte où on donne la parole aux uns et aux autres, parce qu'on veut vivre l'intergénérationnalité. Mais chacun apporte aussi, comme je l'ai dit, une dimension de sa culture. Et je termine avec ça. Vous savez, on dit, c'est plus facile en Europe de mettre ses parents dans une maison pour personnes âgées. Et c'est, mais en Afrique, c'est pas, les gens ont une autre façon de considérer la personne âgée. Et je pense qu'ensemble, on peut apprendre à partir d'un sujet comme cela. Partager, discuter et prier ensemble. Cette fois-ci, j'ai fini pour de bon.
Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Voilà, donc c'est un riche week-end avec tout ce que nous avons pu apprendre. Et chacun de nous, nous avons une mission finalement pour la cause de Christ. Et c'est vraiment unis en fait que nous pourrions arriver. Moi, je crois que cet été, j'aurai une longue discussion avec mes parents aussi. Je vous propose de vous tenir debout. Et nous allons prendre ce chant qui dit « Ensemble ». Nous pouvons porter nos fardeaux et nos joies. avec notre frère Ira, s'il vous plaît. Merci de vous tenir debout. Merci, mes frères, pour ce service. Notre culte arrive à sa fin.
Prions. Seigneur, quand le conseil a souhaité avoir ce séminaire, nous avions à cœur des objectifs. Parce que nous voulions que tu nous parles. Et quand nous parlons, tu nous donnes des réponses. Et tu en as donné hier et aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Nous voulons prier que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que ce qui a touché nos cœurs, en tant que famille, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que personne âgée, en tant que jeune, que les choses qui ont touché, Saint-Esprit, aide-nous à les pratiquer. Saint-Esprit, aide-nous à les pratiquer. Nous prions que tu, Seigneur, guéris, tu es un Dieu qui guérit. Jean-Claude, ton serviteur, a parlé beaucoup de fois de familles blessées, de cultures blessées, blessantes. Seigneur, guéris nos blessures. par ton Saint-Esprit, aide-nous à guérir de nos blessures. Nous te présentons ton Église. Les défis sont là, mais c'est avec toi que nous voulons les relever. Quelques pistes nous ont été proposées. Certaines choses qui ont été dites par ton serviteur sont déjà en œuvre ici. D'autres restent encore en chantier. Et nous voulons présenter ton Église devant toi. Merci de continuer de conduire ton Église, de l'accompagner, de la tenir debout dans la vie de l'Esprit par Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant peut-être de dire un mot pour remercier Jean-Claude, j'aimerais accueillir ceux qui sont là parmi nous, dont c'est la première fois, ou en tout cas, ça fait bien longtemps qu'elles n'ont pas été ici. Nous voulons accueillir voilà, toutes les nouvelles personnes ou les personnes qui nous visitent après bien longtemps. C'est une façon aussi de communier avec vous.